Il me fait plaisir d'être avec vous. Comme nous vous échangeons avant l'Assemblée, nous avons une magnifique température ici au Québec, un avant-goût de non seulement du printemps, mais l'été. Quelle est la position de Dieu sur l'obéissance aux autorités civiles lorsque ces autorités civiles désobéissent aux principes de Dieu, aux valeurs chrétiennes contenues bien sûr dans les Saintes Écritures? Nous avons eu une sermonnette qui nous a montré l'importance d'être des sentinelles, de prier, soutenir du mieux que l'on peut. Et merci, Rosé, pour nous apporter ce message équilibré. Et la question que j'aimais bien, c'est que feriez-vous depuis le confort de votre maison, mais si vous étiez transféré, au fond, dans la situation avec tout le poids des responsabilités? Donc, je développe un autre aspect, c'est exposer un exemple de courage et de résistance de deux femmes dans une situation politique périlleuse. Le récit de leur positionnement moral et résolu se trouve au début du livre de l'Exode, la sortie d'Égypte, appelée Shemot, les noms dans les Écritures hébraïques. Il s'agit selon certains commentateurs du premier cas de désobéissance civile reporté dans l'histoire sainte. J'aimerais qu'on regarde ce récit, qu'on en tire certaines leçons dans Exode 1, verset 6, premier chapitre de l'Exode au verset 6 et les versets qui vont suivre. Nous allons voir une mise en situation que Dieu nous propose et voir deux femmes, entre autres, être impliquées dans un élément de conflit majeur. Joseph mourut. Il s'agit bien sûr du Joseph qui avait permis à l'Égypte de passer une période difficile de famine et aussi qui avait permis à sa grande famille de pouvoir émigrer et être sous la protection, pourrions-nous dire, de l'Égypte à l'époque. Joseph mourut ainsi que tous ses frères, c'est-à-dire donc les tribus, les chefs de tribus qui allaient devenir les chefs de tribus d'Israël, et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds, multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Le nombre fait la force dans plusieurs cas. Le pays en fut rempli. On parle donc de ce pays d'Égypte qui avait hébergé ses quelques 70 descendants d'Israël, mais qui se multipliaient rapidement. Verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il ne connaissait pas cet aspect d'un Joseph étranger qui avait contribué à sauver le pays d'Égypte. Alors il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Lui, il voit un problème. En tant que nouveau roi, il doit passer, il veut passer en priorité son peuple et il voit un peuple dans son pays qui se multiplie et qui pourrait, dans un certain sens, remplacer la population des Égyptiens ou renverser du moins leur confort. On va descendre au verset 13. Alors les Égyptiens, dans leur stratégie, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils les ont fait travailler en tant qu'esclaves. Ils leur rendirent, verset 14, la vie amère, par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Autrement dit, c'était vraiment la main-d'œuvre appliquée aux travaux les plus difficiles. Et c'était, problème additionnel avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Question donc d'imposer, question d'être cruel. Donc on voit ici un nouveau pharaon qui déclenche dans un certain sens un mal. Il décide d'agir brutalement pour freiner le taux de natalité incontrôlable et en flambée chez les Israélites. Sa crainte est compréhensible. Il suffirait juste de regarder l'immigration que, entre autres, la France et même l'ensemble de l'Europe vit, et le taux de natalité qui dépasse dans l'Europe, n'est-ce pas, le taux des, on pourrait dire, des locaux, des Européens ou des nations de souche. Alors, il y a un problème. Sa cruauté, par contre, est insondable. Et manifestement sans aucune justification possible. Le moyen qu'il a choisi ne correspond pas à la façon que Dieu, lui, encourage les dirigeants à régler les difficultés qui se proposent, qui se présentent à eux. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Les recherchistes, les commentateurs se sont penchés sur ces deux femmes. Bien sûr, pour une population qui allait en croissance, où les mères accouchaient des enfants, deux sages-femmes, bien sûr, c'est seulement la représentation, on pourrait dire, des dirigeants de sages-femmes, parce qu'il devait être plusieurs, d'après les calculs des historiens, plusieurs milliers de sages-femmes qui aidaient les femmes hébreues à accoucher. Il s'agit donc des dirigeantes de ces sages-femmes. Les noms ont été l'objet de recherches. Chifra, on a retrouvé dans les hiéroglyphes égyptiens, c'est un même nom. Dans une liste d'esclaves en Égypte sous le règne, par exemple, de Sobekhotep III, vers les années 1745 avant Jésus-Christ. Intéressant parce que ça pourrait correspondre un peu à l'époque qui, bien sûr, nous achemine éventuellement plutôt vers les années 1500 avant Jésus-Christ. Alors, on peut même identifier ce nom-là sur, par exemple, le papyrus Brooklyn 35. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux anciens documents, c'est justement, on peut retracer ce nom de Choua, pardon, Chifra d'abord. Le nom signifie être belle ou jolie et peut-être identique. Et ça, c'est intéressant à l'araméen. Sapira et bien sûr en hébreu Chifra, le nom de la sage-femme hébraïque. Voilà, donc c'est un nom qu'on peut dire que l'histoire confirme que ce nom existait à l'époque. Le nom de la seconde sage-femme, Pua, lui serait un nom cananéen. Il signifie jeune femme ou petite fille. Et la tradition, étant donné qu'elle était d'origine cananéenne, va l'illustrer comme étant une femme noire. Bien sûr, il y a souvent confusion au niveau de la transmission de certaines œuvres d'art par rapport à certaines valeurs qui ont été développées à travers l'histoire, n'est-ce pas, des saintes écritures. Mais ça vous montre que ces femmes-là ont quand même inspiré, ont été comme l'objet de recherche pour comprendre qui elles étaient. Un commentateur a fait remarquer que Dieu, dans les Saintes Écritures, n'a pas retenu le nom du pharaon génocidaire, mais qu'il a quand même voulu que soit écrit dans le livre de vie ces femmes parce qu'elles-mêmes allaient sauver des vies. Femmes de vie dont les noms donc se retrouvent dans le livre de vie. Continuons la description de ce qui se passe au verset 16. Alors ce pharaon leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, Donc, ce sont des sages-femmes qui sont connues de la cour royale, probablement des dirigeantes, hein, pour accompagner ces femmes à coucher, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. C'est là que la situation devient cruciale pour deux femmes en charge d'aider les femmes hébraïques à mettre au monde des enfants. Imaginez la tension qui se lève lorsque cette directive est donnée. Aller auprès de ces femmes hébreux et arracher des mains de ces mères les garçons. Ouf, imaginez aussi la pression qui existe sur les femmes hébreues qui souhaitent presque que ce soit une fille qui vienne au monde et non pas un garçon, de peur bien sûr de les voir se faire tuer sous leurs yeux. Les sages-femmes, remarquez au verset 17, c'est là que ça se joue. Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Cette expression, hein, les sages-femmes craignaient Dieu, c'est la façon que les saintes écritures démontrent la priorité donnée à ces sages-femmes ou à toute personne qui est craignant Dieu, donnée aux valeurs morales sur les concepts, on pourrait dire, ou les directives qui sont contre ces valeurs morales. Selon les Saintes Écritures, mais aussi craindre Dieu dans l'ensemble, on pourrait dire, de la société de l'époque, c'est aussi avoir autrement dit cette présence morale de certains principes comme celui de tu ne commettras pas de meurtre et de l'appliquer avec dévotion, avec risque. Alors c'est ce que ces sages-femmes, bien sûr, qui croyaient que, en fait, elles croyaient que les exigences morales de Dieu l'emportaient sur les exigences légales du pharaon. Une certaine auteure qui s'appelle Francine Claxbrun a déclaré que le refus des sages-femmes de suivre les instructions génocidaires de Pharaon pourrait être le premier incident connu de désobéissance civile dans l'histoire. Intéressant que Dieu a voulu le prélever, a voulu l'écrire et on le retrouve dès le deuxième livre des Saintes Écritures. Un théologien qui s'appelle Jonathan Magonnet appuie cette déclaration et qualifie ces sages-femmes comme étant les premiers exemples et à certains égards les plus puissants exemples de résistance à un régime maléfique. Et le verset 18 nous montre cette situation. Tendu, mettez-vous à la place de ces dames qui travaillent pour la vie. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Ils voyaient très bien que le problème continuait, que le nombre d'enfants augmentait et que les petits garçons aussi étaient encore vivants. Donc c'est un moment, frères et sœurs, difficile, un moment de confrontation. Les sages-femmes risquent ici leur vie. Que peuvent-elles répondre? Pourquoi j'aborde ces choses-là? Parce que nous allons voir que Jésus-Christ nous rappelle que les enfants de Dieu auront à vivre des moments de confrontation, qu'ils auront à vivre ces moments où il faudra parfois se positionner devant les autorités. Alors voyons comment lui-même, Jésus, va nous dire la marche à suivre, si vous voulez, si nous sommes placés dans une situation entre choisir d'obéir à Dieu, aux principes des Saintes Écritures, plus, de préférence à obéir à des ordres qui les contredisent. Alors, voyons l'Évangile selon Luc. Nous avons eu tantôt une référence de l'Évangile selon Luc. Nous allons nous retrouver au chapitre 12, si vous voulez bien. Et on vient de nous dire que ces femmes craignaient Dieu. Jésus-Christ va utiliser le même verbe. Il va dire dans verset 4, je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent faire rien de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Craindre Dieu, c'est placer Dieu comme étant le pouvoir absolu sur nos vies et sur la vie de tous nos semblables. Il y a des gens, bien sûr, qui peuvent, de façon brutale, tuer la vie physique. Mais Dieu dit, parfois, nous allons perdre notre vie physique pour gagner la vie éternelle. Sinon, dit-il, si vous faites la mauvaise transaction, c'est que vous ne craignez pas vraiment Dieu, celui qui lui pourrait vous enlever la chance ou l'occasion d'avoir la vie éternelle parce que vous avez marché contrairement à ses voies, vous avez pris les mauvaises décisions. Et là, au verset 6, il va mettre une question simple. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Alors, les passereaux, hein, servent aux plus pauvres, comme nourriture. Et même, ça nous rappelle que Dieu acceptait des offrandes, hein, de petites volailles comme les pigeons, les offrandes des démunis. Et bien sûr, ces passereaux servent à la vie des hommes et peuvent contribuer à leur relation avec le Dieu des Saintes Écritures. Ils semblent être juste comme très secondaires. Mais Jésus ajoute au verset 6, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Imaginez, Dieu a créé ainsi les oiseaux et il s'est, dans un sens, mis en relation avec eux au niveau de la connaissance de l'existence de chacun d'entre eux. Ça, c'est notre Dieu. Difficile à comprendre, mais il y a quelque chose qui lie Dieu et sa création qui fait qu'il est conscient de chacun des éléments de sa création. Et il ajoute au verset 7, et même, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, soyons conscients que Dieu est beaucoup plus conscient de vous que vous ne l'êtes de lui. Ne craignez donc point. Je répète, hein, c'est revenu plusieurs fois. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 fois le mot craindre. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ne craignez pas, autrement dit, les hommes, craignez Dieu. Je vous le dis, verset 8, quiconque me confessera devant les hommes. Donc, nous sommes dans une situation où Jésus-Christ dit, mes amis, mes frères et mes sœurs, il y aura des occasions où vous devrez vous positionner, vous devrez dire où vous êtes dans votre vie. Et ça s'appelle une confession. Qu'est-ce que c'est qu'une confession? C'est une déclaration publique de nos valeurs et de notre relation avec le Dieu des Saintes Écritures. Donc, c'est une affirmation avec témoin de notre positionnement dans nos valeurs et notre relation avec le Dieu des Saintes Écritures. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes. Donc, parfois, nous pouvons être positionnés, placés devant les hommes. Mais il faut savoir que cette période où nous avons à témoigner et nous sommes sous une pression de jugement est en rapport avec la période de jugement où Jésus-Christ nous montrera devant aussi les hommes. Il dit ceci, le Fils de l'homme le confessera, c'est-à-dire publiquement, et déclarera son frère ou sa sœur comme étant digne du royaume de Dieu. Il le confessera aussi devant les anges de Dieu, devant la cour céleste. Lorsque nous comparaîtrons en tant qu'être spirituel à la résurrection, nous pourrons être approuvés devant la cour céleste. Mais le verset 9 donne l'opposé. Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Ce que l'on fait, autrement dit, sur une base humaine, est considéré d'importance sur une base du royaume angélique. Comment nous nous comportons dans les petites choses aura une répercussion dans les grandes. Alors nous assistons à un moment crucial où nous sommes confrontés. Ferons-nous comme Pierre pris de court la nuit de l'arrestation de Jésus ou ferons-nous comme Jésus lui-même? Verset 10, toujours dans Luc chapitre 12, verset 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Et là, c'est remarqué que c'est précisé quand on vous mènera devant les synagogues, devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz, comment vous défendrez, Dieu dit, ne faites pas de scénario à l'avance. Ne réfléchissez pas au comment. Réfléchissez à simplement, pourrais-je me tenir devant Dieu? Pourrais-je me tenir avec ce que Dieu m'a enseigné? Verset 12, car le Saint-Esprit, la présence de Dieu vers laquelle, n'est-ce pas, nous allons pour la Pentecôte, nous enseignera, vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ce qui montre que c'est des moments clés pour Dieu en rapport avec ses enfants et il s'engage à non seulement être présent, mais à dire ce qu'il faudra dire. Alors nous reportons ce principe-là sur les sages-femmes et il est difficile pour nous de comprendre la réponse qu'elles ont donnée, en quoi cela a apaisé Pharaon. Il semble simplement avoir eu la sagesse de dire, autrement dit, votre plan, monsieur Pharaon, ne fonctionne pas, tout simplement. Vous devez accepter que les femmes hébraïques sont fortes. Alors, en tout cas, Exode 1, verset 19. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Vous allez dire, mais il me semble que c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? Écoutez, Dieu a voulu enregistrer leur réponse et dire, est-ce que vous, les enfants de Dieu, vous auriez eu cette sagesse sur le moment, quitte à dire quelque chose qui semble pourtant ne pas donner la raison? Une chose est certaine, elles ont indiqué que Pharaon ne pouvait, quelque chose que Pharaon ne pouvait pas réfuter, son régime cruel aux yeux de Dieu produisait un peuple résilient et résistant. Autrement dit, sa stratégie avait l'effet contraire. les fardeaux lourds avaient produit des gens non seulement en bonne santé, mais avec une volonté de survivre, de résister. Alors, verset 20, ce qui compte, c'est que selon ce que ces femmes ont dit, Dieu a réussi à faire tourner le cœur de Pharaon, du moins à le faire taire pour un certain temps. Non pas ses plans allaient nécessairement s'arrêter, mais les sages-femmes, dans un certain sens, n'allaient plus être impliquées. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors, la tradition juive donne le fait que les deux chefs sages-femmes auraient été, entre autres, l'une d'entre elles aurait été Myriam, la sœur de Aaron, celle qui était si connue de la part des Israélites, des femmes israélites, et qui a conduit les femmes dans la louange, hein, lorsque elles ont traversé la mer Rouge après que l'armée égyptienne des chariots a été anéantie. Juste pour vous donner une idée, c'est que parfois la tradition émet des choses qui essaient de faire des connexions avec le texte et avec d'autres réalités plus tard. L'idée de maison qui ont prospéré, amène aussi les gens à réfléchir pour dire, ben, la prospérité des Israélites éventuellement, c'est que Dieu est en train de se choisir une nation sainte, de laquelle nation allait être une race de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs et de Lévites. D'où l'association avec l'idée de Myriam, bien sûr, sœur d'Aaron, sœur du souverain sacrificateur Aaron, et bien sûr, Lévite elle-même, de la tribu de Lévi. Alors, Pharaon, autrement dit, change de stratégie. Verset 22. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Voyez-vous, dans un sens, il passe la responsabilité à son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre les filles. Pour ceux qui sont féministes, il y a du bon et du mal dans le féminisme, ben ici, réjouissons-nous, parce que Pharaon préfère les filles et les femmes aux hommes. Alors ici, on a affaire vraiment à de l'anti-masculisme. Ça vous montre que l'histoire, n'est-ce pas, mettre des mots comme ça, la réalité, elle, est que les femmes ont survécu, les hommes sont en danger. Le thème donc de la crainte de Dieu ici devient inversé, c'est-à-dire que Pharaon ne craint pas Dieu. Il fait à sa tête, il ordonne au peuple égyptien de commettre le génocide. Les Égyptiens craignait apparemment le pharaon beaucoup plus qu'il ne craignait non seulement le Dieu d'Israël, mais il ne craignait leurs propres principes moraux, leurs propres valeurs intrinsèques. On peut comparer ça à l'époque des nazis. Lorsque certaines personnes de toute nationalité et de toute religion, rare bien sûr, mais encore plus précieuse, ne craignaient pas le pouvoir nazi autant qu'ils craignaient de souiller leur conscience, de commettre un acte infâme en vendant ou en exterminant le peuple juif dans ce qu'on a appelé la Shoah, l'Holocauste. Nous avons l'histoire, entre autres, d'une femme, une famille, en fait, hollandaise, qui a protégé certain nombre de Juifs. Il y a le nom de Schindler, n'est-ce pas, qui, lui, a sauvé la vie de centaines de Juifs. Alors, on peut comparer, au fond, cette résistance des femmes a cette capacité de résister à un ordre maléfique. Shifra et Pua illustrent le courage moral qui triomphe du mal tyrannique. En défiant le décret du pharaon de tuer les nouveau-nés hébreux, elles montrent donc qu'elles craignent plus Dieu et elles mettent la crainte de Dieu au-dessus de l'autorité humaine, épargnant l'innombrable vie par la sagesse que Dieu leur donne sur le moment. Leur acte de désobéissance civile fondée sur le respect de la vie déjoue l'intention génocidaire du pharaon. Dieu récompense leur fidélité, les bénit par des dynasties ou par des foyers durables, tandis que la population israélite se multiplie, devenant donc extrêmement puissante, extrêmement forte. Encore une fois, on voit que la faveur divine souligne cette vérité. Le mal, bien que redoutable, est finalement impuissant face à ceux qui s'alignent sur l'ordre moral de Dieu. Au fond, le décret de Pharaon, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, d'utiliser tout son peuple pour son projet, révèle qu'il est dans une situation limite. Il est au fond désespéré et il doit reconnaître que son plan initial n'a pas fonctionné. Il voulait faire les choses en catimini, un peu comme mettre quelqu'un d'autre responsable du décès des garçons, mais finalement, il doit prendre les grands moyens, comme on dit. Revisons quelques points de ces sages-femmes, la valeur de ces sages-femmes, certains gestes. Les sages-femmes, d'abord, ont joué un rôle essentiel en apportant des soins de santé et de soutien émotionnel pendant la crise de l'oppression d'Israël en Égypte. Ce que nous remarquons, c'est que ces femmes sont déjà impliquées à aider leur propre peuple, à être un soutien et à prodiguer des soins de santé. Dieu, dans un sens, va les amener à un niveau encore plus élevé de responsabilité et on pourrait dire de bénédiction. Elles sauveront des milliers de vies. Les sages-femmes offraient des soins compatissants, répondant aux besoins donc physique et émotionnel des personnes apportant un soutien lors de détresses importantes. Malgré les défis, les dilemmes éthiques, les sages-femmes ont fait ceci, défier les systèmes oppressifs, préserver des vies, léguer un héritage culturel durable de justice et de protection envers les plus vulnérables. C'est là ce que les Écritures veulent souligner. Dieu est du côté de ceux qui aident et protègent les plus vulnérables. Voyons rapidement maintenant quelques exemples tirés des Écritures d'autres personnes ayant choisi la crainte de Dieu au lieu de la crainte des hommes. Nous allons voir cinq exemples rapidement. Le premier exemple additionnel à celui des sages-femmes est dans Josué 2. On connaît tous ces exemples, mais c'est intéressant que en les enlignant comme ça, nous voyons que Dieu revient avec ce principe. Rahab, dans Josué 2, versets 4 à 6, Rahab cache les deux éclaireurs israélites contrevenant directement aux ordres du roi de Jéricho. Le grand maire, si vous voulez, de Jéricho. Avoir su ce que cette femme a fait, l'aurait certainement exécuté et aurait aimé bien sûr se saisir de ces deux éclaireurs israélites. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La femme avait pris les deux hommes et les avait cachés. Elle a donc dit, oui, les hommes sont venus me voir, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Au crépuscule, alors que la porte allait se refermer, les hommes sortirent et je ne sais pas dans quelle direction ils sont partis. Alors, elle a menti, menti. Elle a protégé les éclaireurs. Elle a utilisé son ingéniosité. Autrement dit, ici, nous sommes dans un exemple de femme ou de personne qui se rend du côté du peuple de Dieu. Rahab dit ailleurs qu'elle avait reconnu que le Dieu des Israélites était le Dieu des cieux de la terre et que c'était le vrai Dieu. Et elle s'est rangée au risque de sa propre vie du côté de ses représentants du peuple de Dieu. Donc, Rahab est un exemple, entre autres, de crainte de Dieu au-delà de la crainte des hommes. Un autre personnage, on le retrouve dans le premier livre des Rois, 18, verset 4. Un roi 18, verset 4. Son nom est Abdias. Il ne s'agit pas du prophète Abdias, mais il s'agit d'un homme de la cour royale, assez discret parce qu'il a réussi à cacher 100 prophètes de Dieu à l'insu de la reine d'Israël qui était Jézabel. Vous savez, Jézabel avait marié Achab, le roi d'Israël, et elle avait instauré un culte de Baal, hein, un culte païen, avait ses propres prophètes, ses propres prophétesses, et elle exterminait les prophètes du Dieu d'Israël, de Yahvé, de celui qui est. Car il est dit que lorsque Jézabel avait massacré les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes et les avait cachés, 50 hommes par grotte, leur fournissant nourriture et eau, c'est-à-dire qu'il les ravitaillait. Donc, ils devaient discrètement aller chercher la nourriture et l'eau. Vous savez, quand on est un homme et qu'on doit nourrir 100 personnes à chaque jour, c'est difficile d'opérer sans se faire remarquer. Il a réussi, Dieu donne une certaine sagesse souvent à ces gens qui se rangent de son côté. Alors, Abdias, qui cache 100 prophètes, est un autre exemple. Un troisième exemple se trouve dans le livre de Daniel. Et comme l'a dit José Pablo tout à l'heure, souvent on regarde ces hommes-là dans le confort de notre foyer et on se dit, c'est bon pour eux, on est bien content, je me range de leur côté et probablement je ferai la même chose qu'eux. La seule chose qu'on ignore parfois, c'est serions-nous prêts à vivre les tensions que ces gens ont vécues? La pression de faire face à se faire exécuter en plein public, hein? On est devant des milliers et milliers de personnes qui sont là et qui s'attendent à ce que le roi Nebuchadnezzar montre son leadership et il prouve qu'il est l'empereur qui a du guts, hein, qui sait se faire respecter. Alors, on a affaire donc à trois hauts responsables juifs qui disent non à l'adoration ordonnée par l'empereur Nebuchadnezzar. On connaît le récit. Et mais regardons juste leur phrase, entre autres au verset 16. Regardez comment ils répondent. Ils sont en situation. Il y a une tension, il y a les gardes, il y a le peuple qui regarde, toute la cour est là. Il y a la fournaise qui chauffe parce qu'on est prêt à les exécuter. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Ô Nabucodonosor, nous n'avons pas de réponse sur cette question. La question, c'est: allez-vous adorer la statue? Et non, nous n'avons pas à répondre à cette question-là. Si le Dieu que nous servons existe, alors il peut nous délivrer du four ardent et de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni ne vénérerons la statue d'or que tu as érigée. Autrement dit, nous sommes en paix avec notre Créateur. Il peut très bien nous délivrer, mais aussi il peut décider de ne pas nous délivrer. Ça ne changera absolument rien à notre décision d'aller contre ce que Dieu nous a prescrit. Wow! J'espère que vous êtes d'accord avec moi à dire ça, c'est une décision consciente, pesée, et nous en avons ici les paroles inspirées. Nous servons le Dieu vivant, le Dieu du ciel et de la terre. Notre destinée est entre ses mains. Notre vie lui appartient. Tu n'as pas aucune influence sur nous. Écoute, je dis bonjour, salut à Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois hauts fonctionnaires juifs. Un qui est tout près d'eux, bien sûr, c'est un autre exemple. Le quatrième se trouve dans le même livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. Situation différente, mais quand même une pression incroyable. Et elle s'est répétée pendant un certain nombre de jours. On ne sait pas exactement combien. Mais un ordre avait été donné qui devait durer, je pense, un mois. Et nous voyons que David, pardon, pas David, mais Daniel, va désobéir à cet ordre. Je crois qu'il est un homme assez sage et conscient pour savoir qu'il pouvait être observé, mais ça ne lui a pas fait peur. Daniel va contrevenir au décret royal de ne pas prier un autre que le roi des Perses. Alors, il est dit au verset 19, Daniel 6, quand Daniel apprit que le document où l'édit avait été signé, il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure s'ouvraient vers Jérusalem. Donc, c'est l'habitude hein, qu'ils avaient pris depuis la déportation. Et Daniel était parmi un des premiers déportés par Nabucodonosor de prier vers Jérusalem. Le Dieu des cieux, bien sûr, mais avec la compréhension que Jérusalem était là où Dieu allait établir son futur royaume. C'était la ville bénie. Et trois fois par jour, Daniel se mettait à genoux, priait et rendait grâce à son Dieu comme il l'avait fait auparavant. En lisant le reste de l'histoire, nous comprenons qu'il n'a pas pu éviter d'être piégé, mais que Dieu est intervenu en sa faveur. Résistance, capacité de ne pas renier son Dieu. Cinquième exemple. Acte 5, versets 27 à 29. Ici, les apôtres, quelque temps après la résurrection, proclament justement qu'un Jésus qui avait été exécuté par les Romains, mais bien sûr livré par les autorités religieuses de Jérusalem, justement, vont recevoir l'interdiction de continuer à prêcher. Verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, le nom de Jésus, Yeshua? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Intéressant, vous avez rempli Jérusalem. Est-ce qu'il connaissait les Écritures au point de les dire sans vraiment y penser? Parce qu'il est dit qu'un jour, la terre entière va être remplie de la connaissance de l'Éternel. Et voilà que les apôtres remplissaient Jérusalem de la connaissance de Jésus-Christ. Hein? Intéressant quand même. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Autrement dit, vous expliquez trop bien que Jésus-Christ avait été exécuté injustement, puis vous parlez même qu'il a eu un procès avec le Sanhédrin qui était illégitime, non avenu. Alors, hein, vous voulez dire que c'est de notre faute et qu'au fond, on a fait exécuter un innocent. C'est des conflits, hein? C'est des vraies situations de tension, de réalité entre deux systèmes de valeurs complètement différents. Mais regardez la réponse de Pierre, et elle doit s'inscrire dans notre mémoire, mais aussi rester dans l'ensemble de la situation. Vous savez, parfois, on peut utiliser ce verset-là d'une façon légère et je pourrais dire même inappropriée. Mais quand ça vient le temps, il faut l'utiliser pour ce qui compte vraiment. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ici, c'était clair. On avait un ordre venant des autorités qui contredisaient l'ordre du Créateur Rédempteur, Maître de l'univers, qui dit, vous allez et vous prêchez. En conclusion, vous savez, l'histoire de Chifra et de Pua demeure un témoignage intemporel du pouvoir de la désobéissance civile ancrée dans la conviction morale des Saintes Écritures. Leur courage, animé par une profonde crainte de Dieu, montre que ces valeurs peuvent triompher. En épargnant les garçons hébreux, ces femmes leaders sauvèrent la nation d'Israël de l'extinction, préservèrent le peuple d'Israël, incluant bien sûr la lignée de Juda, qui un jour donnerait mettrait au monde le Christ, le Sauveur, le Roi. Ce récit nous invite aujourd'hui à réfléchir à notre réponse à l'injustice. Les actions des sages-femmes nous rappellent que même face à un pouvoir écrasant, les actes de défi fondés sur la foi et la clarté morale peuvent démanteler les intrigues du mal. Laissons leur histoire ainsi que nos exemples suivants, enflammer notre détermination. Tenons bon face à l'injustice. Utilisons la vérité comme bouclier. Agissons avec l'audace de la foi, de la confiance dans notre Créateur. Oserais-je, Bruno, comme Chifra et Pua, défier les pharaons d'aujourd'hui pour protéger la vie et pour parler du prince de la vie. Prenons courage, surmontons le mal par le bien. Le plaisir d'être avec vous. Quelques nouvelles de mon épouse. C'est difficile, la réhabilitation. Comme vous savez, Chantal a eu un deuxième infarctus qui était en rapport avec l'opération. Mais aussi, la guérison, c'est que on comprend de plus en plus que le sectionnement, non seulement du sternum, mais de toutes de tous les tissus, doit conduire non seulement à une fermeture de la plaie, mais aussi à une refabrication des terminaisons nerveuses. Alors, c'est très difficile, c'est très douloureux. Tout mouvement réveille cette région, C'est pénible et c'est quelque chose qu'elle endure patiemment, mais qui fait qu'elle a des hauts et des bas physiquement. Alors, vos prières continues sont utiles, mais elle est hors danger, mais elle n'est pas hors de guérison encore. Elle est en guérison et nous apprécions beaucoup votre soutien là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat. Et je remets la parole, je pense, à Monsieur Goris.